La conversation perchée. Le 10 mars 2009, Grenouille et le Merlan s'associaient pour proposer une conversation singulière, voire perchée. Autour d'une table, des spectatrices et des artistes, des responsables d'actions associatives, une programmatrice, une douzaine d'interlocutrices et un interlocuteur pour parler de la condition féminine aujourd'hui, des libertés fondamentales, de l'égalité, de solidarité aussi. Aucun micro apparent dans cette conversation, sinon la perche discrète de Tony Regnault. Pour commencer, un tour de table pour se présenter.
Bonjour, je m'appelle Nadira Amsagri et je viens du centre social Agora avec un groupe de mamans. Et notre groupe de mamans s'appelle les Femmes en Action.
À Sibar-Edjdal, je travaille donc à l'association Chemin où je suis responsable du secteur formation.
Catherine Baudin, je suis responsable du centre d'information sur les droits des femmes de Marseille, réseau national pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Bonjour, Lucie Rodriguez, responsable du CODIF, centre d'orientation, de documentation et d'information des femmes.
Bonjour, Régine Ferrin, CODIF, responsable du centre ressources.
Bonjour, Françoise Semiramod, je suis artiste plasticienne et je travaille avec l'association Femmes d'ici et d'ailleurs.
Bonjour, je m'appelle Stéphane Saonellet, donc je suis réalisateur et vidéaste et je travaille avec l'association Femmes d'ici et d'ailleurs.
Alors, Fatima Razi, présidente de l'association Femmes d'ici et d'ailleurs, association qui travaille sur l'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle des femmes en difficulté.
Bonjour, Oumi Kamara, présidente de l'association FEMAFI. Association donc pour la valorisation et la promotion donc des femmes de toutes les origines.
Nathalie Marteau, je suis la directrice du Merlan qui accueille ce moment et je voudrais quand même citer à l'initiative du service des relations publiques du Merlan que je salue et que je remercie et qui sont tous présents là autour de nous.
Teresa Tigrato, je suis directrice artistique d'une compagnie de théâtre Arturo, mais ici en tant que, au nom du collectif Femmes en Marche et de l'initiative féministe européenne.
Nelly Siwekwaba, dancer choreographer independent from South Africa.
Anaïs Le Ménian, traductrice ce jour. Donc Nelly Siwe, qui est donc, comme elle vous le disait, artiste chorégraphe qui travaille en Afrique du Sud.
Kathleen Noël, artiste chorégraphe haïtienne qui vit au Mali et je travaille sur le continent africain.
Je vous propose qu'on commence à parler des libertés individuelles des femmes et peut-être par cette citation d'une phrase qui a beaucoup résonné dans les années 60 et 70 qui était « Notre corps nous appartient ». Est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui ce droit des femmes à maîtriser leur propre corps est acquis, définitivement acquis, ou bien est-ce que vous pensez autour de cette table qu'il y a encore du travail à accomplir pour parvenir à cet objectif ?
Je crois que c'est un sujet de forte actualité puisque nous avons toutes certainement été mobilisées autour de la défense du réseau des plannings familiaux qui ont été les premières structures à défendre effectivement ce droit et cette liberté du corps des femmes et qui aujourd'hui, en 2009, se trouvent être remis en cause. Or, il est d'une part prouvé qu'il y a encore des besoins, il y a toujours besoin d'informations. Au-delà de l'information, il y a besoin d'un service et les plannings familiaux apportaient ce service auprès de jeunes et de moins jeunes, mais surtout en difficulté vis-à-vis de leur corps. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut se passer de ces services-là. Le besoin, il est toujours réel, et ça prouve, ou du moins ça démontre, qu'il y a danger et que tous les droits qui ont été acquis par les femmes sont toujours à défendre, il faut toujours être en veille pour ne pas revenir en arrière sur ses droits. Un droit acquis n'est jamais définitivement acquis. Il faut toujours le défendre et veiller à ce qu'il soit maintenu, voire développé.
Je crois que je suis allée, j'ai eu la chance de partir en délégation au Forum social mondial de Belém en janvier dernier. Et c'est vrai que quand on voit la force des femmes qui viennent de tout milieu, parce que lutter pour au moins la base qui est l'avortement, on se dit très souvent, mais tiens, nous c'est quand même quelque chose qu'on a acquis. Et en fait, on se rend compte que pas vraiment et pas du tout. Et pour moi, il y a une des questions qu'on n'a peut-être pas mentionnées dans les questions, dans les sujets, mais qui me semble qu'il va quand même se rejoindre, c'est aussi la question de la laïcité, quelque part. Et que pour, c'est une question qui nous, pour moi, qui m'est très chère, en tout cas, parce qu'on démontre, avec ce qui vient de se passer ce matin, ce que j'ai entendu, en tout cas, sur le Brésil, par exemple, avec cette petite fille, je veux dire que vous avez entendu certainement parler de cette petite fille de 9 ans qui était enceinte de 4 mois et que le médecin a voulu avorter, donc ce médecin a été excommunié. Moi, il me semble qu'on a vraiment une question fondamentale à traiter. C'est avant tout cette position de l'Église, en tout cas, sur des faits qui touchent les femmes. Parce que je pense que tant qu'on aura ça, tant qu'on ne défendra pas la laïcité, on n'aura jamais le droit des femmes. Parce que comment nous avons organisé avec le collectif Femmes en Marche dimanche dernier, donc c'était la journée, nous l'appelons des femmes et pas de la femme. Et il y avait une Sénégalaise qui nous disait, en tout cas, pour les femmes sénégalaises, en tout cas, nous, on était une utopie, parce qu'on avait une illusion, parce qu'on se battait, on avait acquis des droits, que moi, je dis vigilance, parce que rien n'est acquis, hein, rien n'est acquis, au contraire. Mais en même temps, elle nous disait, nous, on n'a rien. On n'a pas droit à l'avortement, on n'a pas droit au planning familial, on n'a pas droit aux études, on est soumise... totalement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ces acquis, en tout cas, on a tout intérêt à les protéger. Hein. Si on veut parler de la phase européenne, sachez quand même qu'en Pologne, qui était un des pays d'avant-garde, aujourd'hui, l'avortement est bien remis en cause, puisqu'il y a aussi le concordat, et que les Polonaises se battent, justement, ont manifesté le 23-24 janvier dernier devant le Parlement polonais pour justement défendre le minimum de ces droits qui sont en train petit à petit d'aller à reculons. Et je pense qu'en France, un pays qui est quand même un des pays d'avant-garde, en tout cas dans les luttes des droits des femmes, aujourd'hui commence petit à petit à aller en arrière. Nous régressons tous les jours, mais ça ne se voit pas. Vous savez, ça ne se voit pas, ça va. C'est fait de manière très discrète. Donc moi, je dis non, nous avons encore beaucoup de travail à faire vis-à-vis de ça, en tout cas.
Effectivement, pour rebondir un peu sur cette idée de régression, parce que quand je vous entendais dire que les femmes sénégalaises, africaines en général, n'ont pas de droit aux études ou quoi que ce soit, je ne crois pas, parce que traditionnellement, nous avions quand même des sociétés matrimoniales. Et c'est vrai qu'on est dans une régression, parce que beaucoup de ces droits qui étaient mis en place par ces femmes ont été perdus. Ont été perdus pourquoi ? Parce qu'effectivement, on avec l'entrée, on va dire, enfin... L'entrée, non, c'est pas vraiment entrée, mais en fait, avec la colonisation, l'école et tout ça, on a refusé à ces femmes d'aller à l'école, certes, mais il faut pas oublier qu'il y avait quand même avant une structure qui était établie, et je pense qu'il faut pas non plus mélanger les deux. C'est pas parce que beaucoup de femmes n'ont pas le droit d'aller effectivement à l'école, donc beaucoup de ces droits-là leur sont pas permis. Qu'il ne faut pas penser non plus que la femme n'avait pas de droits. Elle a des droits. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de ces droits ne sont plus... appliqués et respectés. Quand on voit, par exemple, qu'une femme, il suffit qu'elle soit adulte, qu'elle ait commis un acte adultère pour qu'elle se retrouve tuée ou même brûlée, c'est vrai que c'est inadmissible. Mais il faut quand même revenir à ce qui existait avant, qui aujourd'hui est a tendance à être oublié, qui était quand même une structure traditionnelle, matrimoniale, qui était là et qui respectait quand même les droits des femmes.
Juste pour rebondir sur... Parce que je ne suis pas une spécialiste de tout ce qui est avortement et droit sur le corps des femmes, mais c'est vrai qu'il reste quand même cette question d'éducation. Il ne faut pas la perdre de vue. Les anciennes n'ont pas eu cette précieuse éducation du corps. Ça veut dire que leur course, c'est la survie. Leur course n'est pas à avorter ou garder un gamin, etc. Il est là, je le garde. Mais c'est plus une histoire de coutume, de tradition, que quand on sait, en parlant des femmes musulmanes, elles ont beaucoup, énormément de droits. Et on revient aux Européens ou aux Occidentales, c'est encore des droits qui ne sont pas appliqués. Ou bien, régis par l'homme, il ne veut pas les mettre en avant pour que ces femmes-là n'en sachent rien de ces droits. Mais si vous prenez les livres qui expliquent et l'islam et les écritures en termes de droits des femmes, elles ont toujours énormément de droits dans leur religion. Mais simplement, elles ne sont pas appliquées. Je suis désolée de le dire, mais depuis Simone Veil ou Gisèle Halimi, montrez-moi ce que, à part ces pionnières, montrez-moi la génération d'après, qu'est-ce qu'elle a apporté. Moi, je viens d'un pays qui est le Maroc, où j'ai vu la Moudaouna faire un saut de 20 ans en termes de droits envers les femmes, que ce soit en termes de divorce, en termes de mariage ou d'héritage. Elles font énormément de progrès par rapport à l'Occident, qui est en repli permanent. C'est pareil, là-bas c'est 7% de différence dans le salaire des femmes hommes. Ici c'est 27%. Alors vous imaginez. Donc je pense plus à une régression ici, à l'occidental, une progression dans nos pays, enfin dans nos lointains pays.
En Occident, l'émancipation, le droit des femmes serait donc en régression. Est-ce que ça signifierait que l'héritage du féminisme du XXe siècle serait remis en question?
Alors, je pense que c'est bien en lien avec ce qui vient d'être dit. On a effectivement différentes approches de cette histoire du féminisme. Il y a eu pas mal de débats ces derniers temps sur ce sujet-là. Et je pense qu'il faut respecter les visions qui sont différentes. Mais en même temps, il ne faut pas s'opposer. Ni vouloir imposer une seule explication. Il n'y a certainement pas une seule explication. Donc je pense que l'héritage féministe, bon, pour nous, CIDF, qui sommes totalement issus de cet héritage féministe, puisque c'est Yvette Roudy qui a créé notre réseau national, on se revendique de cet héritage. Mais pour autant, on ne peut pas tourner le dos à toutes les histoires et tous les parcours des autres femmes et des autres associations et d'autres réseaux et d'autres approches de défense des droits des femmes qui se trouve au niveau mondial.
Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait essayer de remettre à l'ordre du jour le féminisme et voir dans quelle mesure il a évolué, dire effectivement les bases, cet héritage, mais un héritage, ça évolue. C'est-à-dire qu'on le prend et on le transforme à l'heure d'aujourd'hui pour que, justement, il soit pérenne. Parce que si on reste sur les vieilles bases des années 70, entre guillemets, c'est clair que dans 10 ans, on ne parlera plus de féminisme.
Il est très important de signaler quand même qu'il y a un certain décalage entre les réalités et ces associations féministes qui ne cessent d'organiser des conférences, etc., qui sont beaucoup dans la théorie, dans l'intellectualisme, et que beaucoup de femmes se sont complètement larguées parce qu'elles ont envie d'avoir des résultats. Et nous, en tant qu'association de femmes, je veux dire qu'il y a plus de 23 ans, on ne dit pas qu'on est féministe, parce qu'on veut être différente, si vous voulez, parce qu'on a essayé depuis plusieurs années de nous approcher de ces associations féministes en leur apportant nos expériences sur le terrain, en leur précisant quelles sont les réalités de certaines femmes. Ben, nous n'avons jamais senti une écoute, au contraire, nous avons senti plutôt beaucoup de discrimination, beaucoup de non-dits. Et du coup, progressivement, on s'est retiré jusqu'à la rupture totale. Il faut décoloniser le féminisme. Et il y avait un problème de culturalisation aussi de ce féminisme. Donc, si vous voulez, le problème, il est là. Le problème, il est là. Pendant qu'on parle du genre, il y a des femmes sur le terrain qui subissent des violences, mais alors incroyables.
Passe d'un trou simple et normal, il va pleuvoir, cela se sent, et je suis seule, moi seule au monde, et du passé, cette fourmi, autant des Grecs et des Romains, d'autres fourmis couraient ainsi, dans rien jamais, ne parle plus, cette fourmi, d'ailleurs, serait-elle, comment va-t-elle,
Et toi et moi, qui sommes-nous? Et comment tournent les planètes qui n'ont pas la moindre importance? Que fait l'histoire au fond des cœurs? Et comment battent ces cœurs d'hommes qui n'ont pas la moindre importance? Que font les fourmis de l'esprit ce matin juin, je crois le 7, sans aucun signe distinctif? Il va pleuvoir, cela se sent, cela fera du bien aux champs. Et ta fourmi, taille ordinaire, qu'en as-tu fait? Que devient-elle? Crois-tu qu'elle était amoureuse? Crois-tu qu'elle avait faim ou soif? Crois-tu qu'elle était vieille ou jeune? Ou triste ou gaie, intelligente ou bien quelconque? Pourquoi, 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 pourquoi ça n'a-t-il pas plus d'importance? Pourquoi, pourquoi ça n'a-t-il pas plus
Conversation perchée sur Radio
pourquoi,
Grenouille.
Pourquoi, 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 pourquoi?
Est-ce qu'on est effectivement dans une situation d'égalité ou bien est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une égalité à deux vitesses, une égalité qui est différente selon que l'on est riche ou pauvre, qu'on a la chance de vivre dans un milieu favorable ou au contraire d'avoir dans son parcours de vie une situation moins aisée. Cette égalité à deux vitesses, qu'est-ce que vous en pensez ?
Il est évident qu'il est toujours préférable d'être riche que pauvre, hein. C'est sûr, dans tous les niveaux, on sait très bien que, je veux dire, dans les centres nationaux, dans les CDN par exemple, 80% ce sont des hommes à la tête de, qui sont les grands directeurs. Les femmes encore, on ne leur donne pas cette... elles ne donnent pas confiance en tout cas à certains organismes pour pouvoir diriger des grandes entreprises. En général, les femmes sont sur le terrain et puis les cadres, ce sont toujours des hommes. Hein. Je pense que on n'est pas. C'est aussi, ça fait partie d'aussi notre lutte, hein, ça, je pense. Hein. Pour revenir à l'égalité, non, il n'y a pas d'égalité, ni au niveau des salaires, ni au niveau des positions. Et je pense que peut-être que Nathalie Marteau peut le dire parce que c'est exceptionnel aussi d'avoir une femme. Et moi, je suis toujours très contente quand il y a une femme à la tête d'un théâtre national, en tout cas.
Comment dire ça ? Il y a les chiffres, en fait. Ce que j'entends là qui est dit, il y a les chiffres. Donc, par exemple, des théâtres nationaux au niveau des scènes nationales, qui est le label du Merlan, c'est 10% des femmes qui dirigent. Alors, moi, de ma génération, de ma culture, je suis cadre, je suis une salariée permanente. Je suis gênée d'aborder cette question par rapport à la notion du droit. En même temps, la réalité parle. Et ce que ça me renvoie, c'est que c'est comme s'il y avait deux dimensions. C'est-à-dire qu'il y a la dimension du droit des femmes, qui est quelque chose de tout à fait général et quelque part universel, en effet. Et puis après, moi, dans ma situation, dans ce que je vis dans ma profession, où les femmes sont extrêmement minoritaires, hein, les réunions de programmateurs, on est 3-4 femmes, et de ma génération, on est 2 en France. Et je suis la seule, non, on est 2 à être femme autour de la quarantaine, à diriger un théâtre national et à être mère. On est 2 en France. Ça raconte des choses, évidemment. Mais ce que ça me raconte aussi, est-ce que, en tout cas là où ça m'interroge, c'est aussi la question, le droit renvoie à la loi, à quelque chose qui est extérieur à nous. Et des fois je me dis, mais qu'est-ce qui, il y a aussi des choses à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il y a aussi la question, j'ai pas envie de dire la dualité, mais la question du féminin et du masculin, c'est-à-dire l'idée de la direction, à quel point ça renvoie au masculin, à quelque chose de guerrier, à de la hiérarchie. Qu'est-ce qu'on attend d'une femme directrice ? Et très souvent, je me pose cette question-là. On est vraiment dans une société où le masculin, pas en tant que genre sexuel, hein, mais le masculin domine. C'est-à-dire, faut rassurer, faut être la mère, faut. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière ça qui fait que l'homme directeur, a priori, de manière naturelle, remplit une fonction. Comme si aujourd'hui, dans notre société, on avait peur de certaines choses qui sont exacerbées par un contexte. On a besoin d'être rassuré. Il y a une déresponsabilisation grandissante dans notre société de pas mal de choses qui se diluent. Et peut-être qu'on projette sur les hommes une capacité plus grande à prendre en charge certaines choses. Des fois, je me dis ça.
Peut-être qu'on pourrait proposer cette question à Kate Lee et Nelly Siway. Justement, à l'instant, Nathalie Marteau évoquait que dans le domaine de la culture, on ne va pas l'isoler du reste de la société et du monde, hein, mais dans ce domaine-là, les directeurs sont très souvent des hommes. Alors peut-être la perception que vous en avez eue au cours de votre parcours.
Et Nadia qui est arrivée aussi, Nadia Beugri qui est arrivée aussi.
I think what Natalie has just said, it's very true, but definitely very evident in Africa.
Donc Nelly dit que c'est très juste ce qu'a dit Nathalie, que c'est assez évident, en tout cas particulièrement aussi en Afrique.
Definitely in the dance industry, there's men who are dominating, whether they're good or not.
Particulièrement dans le domaine de la danse chorégraphique, c'est vraiment les hommes qui dominent, qu'ils soient bons ou mauvais.
And also, actually, I just watched an interview that I did 2 years ago, and I think I said on that interview that even white women in a South African context, that they dominate the dance industry. Gay men and white women dominate the dance industry. So it gives a black man power and dominance.
Donc, ce que disait Nelly, c'est qu'elle relisait un article qu'elle avait écrit ou lu il y a 2 ans, et où effectivement, en fin de compte, le pouvoir, notamment dans l'art chorégraphique, particulièrement en Afrique du Sud, c'était soit des femmes blanches, soit, si je me trompe pas, si je fais pas
gay men,
des homos, soit des homosexuels, et que effectivement,
it gives a black man dominance. So as a black woman, you still underneath the carpet.
Ouais. Donc la femme noire, du coup, est vraiment la dernière roue du carrosse. On le dit comme ça, mais en anglais, c'est... derrière, sous le tapis, on a la femme blanche, l'homosexuel, l'homme noir, qui reste la figure du pouvoir et de la domination, et ensuite la femme noire.
You finish? Très souvent. Alors, le truc aussi qui est intéressant, c'est quand on a une certaine autorité, et quand on sait plus ou moins ce qu'on veut, on dit que celle-là, c'est un homme. Donc, ou alors, on dit qu'elle est caractérielle, elle est hystérique. Ouais, et surtout quand elle dirige des hommes. Hein, donc, alors là, c'est pire, hein, c'est catastrophique. Hein. Donc, on a peur d'elle. Donc, c'est ce que je vis particulièrement. Parce que c'est vrai que on nous demande autre chose par rapport aux hommes danseurs. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. L'homme, il peut arriver avec ses caprices, ses fantaisies. Et la femme, elle ne peut rien se permettre. Hein. Pas des coups de colère. Hein. Quand c'est un homme, c'est normal. Quand c'est une femme, celle-là, elle est comme un homme. Elle n'a plus rien chez elle. Donc, j'aimerais bien comprendre pourquoi c'est comme ça. Quoi. Et surtout quand on arrive en Occident. C'est très, très difficile à gérer. C'est très difficile à porter. Quand tu mènes ta baraque, on ne t'intéresse personne en tant que femme noire particulièrement. Et je ne sais pas, je cherche à comprendre. Je ne comprends pas d'où vient cette domination.
Bon, moi, au mois de décembre, j'étais à Ouaga.
Un matin.
Et je causais avec des danseurs, comme ça. Ce jour-là, il y avait eu un problème. Quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, parmi, il y avait plein de garçons, des danseurs. Et puis j'ai dit, bon, je dois mettre de l'ordre. Qu'est-ce qui ne va pas? Et il y a un qui dit... Il y a un qui me demande, attends, tu viens d'où? J'ai dit, mais pourquoi tu me poses cette question? Il me dit, c'est, bon, chez nous, on parle un peu le nouchi. Comment on appelle nouchi? Le nouchi, français de rue. Donc il me dit, sèche les gratter là-bas. Ici, la femme n'a pas de parole. Tu vois? Donc je me suis sentie mal, quoi. J'ai dit, mais moi, c'est moi qui reste. Moi, je dois mettre de l'ordre. Tu vois? Donc personne ne sort. Parce que ce jour-là, on devait fermer le portail et j'avais gardé la clé. Donc je dis, personne ne sort. Tu vois? Il dit, bon, c'est qu'on va voir. Il dit, Nadia, il me dit, Nadia.
Putain, les couilles.
Non. Nadia, chez nous, au village, ou bien je ne sais pas quoi, même dans nos religions, quelle que soit l'intelligence de la femme, quelle que soit la puissance de la femme, elle ne doit pas prendre de parole devant les hommes. Il dit, ça, c'était avant, mais ce n'est pas maintenant. Voilà, donc je me suis sentie blessée parce qu'il y a longtemps, bon, dans ma première compagnie, j'étais dans une compagnie féminine. D'abord, ça, c'était la première idée de pouvoir combattre ça. Parce que la femme est marginalisée, la femme a droit à ceci, cela, la femme n'a pas droit à tel, voilà, à ça, tout ça. Donc, moi, c'est des choses que je n'accepte pas. Voilà.
Pour rejoindre ce qu'elle disait, en fait, en tant que plasticienne, c'est la même chose. Moi, c'est juste une anecdote. Je suis allée voir un peintre de renom pour avoir quelques conseils, etc. Et il m'a dit, il a vu mon travail et il m'a dit, ce qui serait intéressant, Françoise, c'est que tu dépasses ce stade-là et il faut que tu mettes tes couilles sur la table. Je lui ai dit, oui, je veux bien les mettre, mais encore faudrait-il que j'en aie. Alors déjà, je suis femme, je suis noire et en plus, je suis artiste. Il faut que je dépasse cette notion de féminité et que mon travail, qu'il n'y ait plus cette étiquette de femme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Que les femmes donc, ont une certaine iconographie, un peu mièvre, etc. Et que si, par exemple, on fait une toile avec un personnage qui donne un coup de poing, on ne s'attend pas à voir une femme qui est derrière cette toile. C'est, dans le monde de l'art, c'est un monde sans pitié aussi, quoi. Il y a vraiment une hiérarchie, vraiment une hiérarchie. Et je rejoins tout à fait ce qu'elles disent, quoi. Et effectivement, j'ai été obligée de me créer des couilles virtuelles et je les ai mises sur la table, quoi. Ouais.
Sculpté.
Eh oui.
Ça va bien. Comme c'est une femme, donc c'est féminin, c'est féministe, il faut toujours qu'elle soit là pour porter quelque chose. Et on parlait tout à l'heure d'universalité, et l'universalité, ben, elle n'y est pas, là. Non.
On reparlera peut-être, si vous voulez bien, tout à l'heure de cette question d'universalité, de relativité culturelle, mais je voudrais qu'on vous propose qu'on aborde la question de la solidarité, et notamment de la solidarité entre femmes du monde entier. Je voudrais qu'on la mette un peu en débat, et peut-être comme premier élément de discussion, quelque chose qui relève d'une grande urgence et d'une grande nécessité, c'est la question de la violence qui est faite aux femmes, ou d'autres formes de contraintes, qui peuvent être des contraintes morales. Alors peut-être sur cette idée de la solidarité aujourd'hui entre les femmes du monde, peut-être quelles sont les grandes priorités et comment est-ce que vous mettez en œuvre vous-même dans vos structures ou dans votre quotidien cette solidarité.
Je pense, c'est ce que je disais auparavant, c'est que justement, nous, vis-à-vis de... Ça fait 3 ans qu'on organise à la période du 25 novembre, qui est la journée de lutte, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On s'aperçoit quand même que les violences augmentent, hein, mais elles augmentent aussi parce que je pense qu'il se passe quand même un phénomène qui n'est pas un hasard non plus, c'est que la précarité augmente et que... la précarité engendre la violence aussi. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'exclure. Je pense qu'une famille, quand elle est en difficulté, évidemment, c'est plus facile aussi d'être violent. On essaye. Je pense que les femmes, quand même, sont très solidaires.
Pour l'association FEMAFI, vu que c'est une très jeune association, nous, on n'a pas autant d'ancienneté que mes consoeurs qui sont à côté. FEMAFI a à peine 2 ans d'existence, hein. Donc, il existe effectivement un réseau de partenariat avec les femmes de là-bas, mais pas avec l'association FEMAFI, avec la boutique Loubès. Parce qu'en fait, sa boutique est une boutique de commerce équitable, dans le sens où nous travaillons avec des structures de femmes, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, et nous travaillons donc avec ces femmes-là. Ces femmes produisent, créent, et nous représentons donc ces femmes en achetant ce qu'elles créent et en les vendant à Marseille, dans la boutique, dans la rue du Baignoire, à Marseille.
Pour moi, c'est pas un terme de solidarité internationale, c'est une question de visibilité internationale, de manière à ce que, effectivement, ce qui se passe dans un pays, ce qui se passe dans un autre, que ce soit en bien ou que ce soit en négatif, ce soit visible, ce soit dénoncé, et les nouveaux réseaux de communication servent à ça. Toutes, nous sommes chargées de dénoncer des faits inacceptables et de défendre des avancées. C'est dans ce sens-là que je mettrais un peu solidarité internationale, mais je le vois moins dans les actions quotidiennes qu'on peut mener sur notre territoire. Où, je pense que la seule manifestation qui a vraiment été d'importance, c'est la Marche mondiale des femmes, qui là établit effectivement des valeurs adoptée par des femmes de 88 pays. Donc là, il y a effectivement une action internationale. Mais voilà, je la mets à un autre niveau.
Donc l'association Femmes d'ici, d'ailleurs, c'est vrai qu'elle est axée sur l'insertion, sur l'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle, notamment à l'étranger. Donc depuis 2002, on fait partie d'un réseau international de femmes et économie solidaire, donc qui est les Pénélopes. Donc, et dans les Pénélopes, on est 825 femmes qui travaillons sur l'économie solidaire. Donc le but est quoi? C'est de venir d'abord en aide à la scolarisation des petites filles. Donc les petites filles sont sacrifiées pour que le garçon puisse aller un petit peu plus loin dans ses études. Et on se retrouve avec des petites filles à partir de 7 ans à être des petites bonnes. Donc à partir de là, on a mis en place tout un travail pour les aider à terminer leur scolarité. Je préfère aider ces femmes-là dans leur propre pays, dans leur environnement, que de les retrouver ici avec leurs problèmes multipliés par 100.
Je voulais rebondir sur les violences, on parlait de faites aux femmes. Bon, nous, on est confrontés de plus en plus au niveau du CODIF sur les mariages forcés. Donc beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes qui viennent au CODIF pour un mariage qui a été mis en place ou qui va se faire. Donc de l'esclavage domestique, de plus en plus de jeunes filles, comme disait Fatima, se retrouvent donc nous au CODIF. Donc elles arrivent à sortir à un moment donné ou à faire venir quelqu'un pour nous dire qu'elles ont été ramenées au pays pour être les domestiques donc de ces familles qui leur avaient promis de venir étudier donc en France pour pouvoir avoir un diplôme. Et donc nous, nos actions par rapport à ces deux thématiques, donc pour nous de violence économique par rapport donc à l'esclavage domestique et au mariage blanc aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont confrontées donc au mariage blanc et à un chantage au papier, hein, parce qu'elles ne sont pas forcément donc des papiers, donc le mari les tient aussi par rapport à ça. Donc nous, plus ou moins, on a mis en place dans prévention, donc en information dans les collèges, les lycées, donc des informations sur le mariage forcé. Parce qu'on s'aperçoit que si on ne leur donne pas une information sur les démarches à faire, sur ce qu'il faut qu'elles gardent sur elles, ou ce qu'elles donnent à des amis par rapport à une situation qu'elles voient y venir, puisqu'elles sont quand même confrontées, donc je pense dans le cadre de leur religion, de leurs coutumes, donc à partir éventuellement dans le pays. Donc on essaye de les prévenir et de les informer sur tout ce qu'il faut garder sur elles, ou ce qu'elles mettent de côté chez une amie, pour qu'elles puissent éventuellement prévenir. Donc à ces mariages, une fois qu'elles sont là-bas, donc après éventuellement avoir sur elles des photocopies pour que le consulat puisse intervenir. Et c'est vrai qu'on a fait un gros travail avec ETZ dans ce cadre-là, Esclavage Tolérance Zéro. Et c'était une association qui s'est beaucoup mobilisée sur d'autres pays pour aller rechercher ces filles qui sont parties donc pour un mariage forcé dans leur pays d'origine.
Ça pose un peu la question de où se situe la limite de l'universalité. C'est une question qui peut paraître paradoxale parce que, par définition, on pourrait penser que ce qui est universel n'a pas de limite. Pourtant, ce qui est universel, c'est aussi relatif à la société dont est issue l'idée de l'universel. Les droits des femmes sont universels. Je crois que tout le monde s'accorde là-dessus. Mais on peut aussi imaginer que, dans certaines cultures, ces droits, cette universalité soit perçue différemment. Doit-on à cet égard relativiser cette notion d'universel? Certaines pensent totalement le contraire. Je pense par exemple à Fadela Amara, ancienne présidente de l'association Ni Pute Ni Soumise, actuelle secrétaire d'État à la politique de la ville, qui affirme qu'il ne faudrait pas confondre le droit à la différence avec la différence des droits. Si vous avez envie de vous exprimer sur cette idée.
Concernant effectivement cette notion d'universalité, je pense qu'il faut bien la nuancer. Les droits fondamentaux doivent être les mêmes, c'est-à-dire la violence, il ne faut jamais l'accepter, la liberté de penser, parce qu'il faut savoir que dans certains pays, les femmes ne vont même pas parler de la liberté de leur corps, mais alors là, c'est encore très loin. Elles n'ont même pas le droit de s'exprimer, elles n'ont même pas cette liberté d'expression, de penser. Mais cette notion justement d'universalité, il faut bien la comprendre et ne pas mal interpréter. Voilà. Il faut respecter l'autre dans la différence
Et c'est là où est posé le problème. Sinon, les femmes, par exemple, dans ces pays qui ont toujours lutté, mais elles ont trouvé des petites astuces pour détourner toutes ces coutumes lourdes, atroces contre ces femmes. Je peux vous donner un exemple. Au Maghreb, comment elles ont résisté pour ne pas être massacrées quand elles avaient un enfant illégitime? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elles disaient? Par exemple, leur mari était c'était un immigré en France, et elle vivait en Algérie, au Maghreb, et elle fait un enfant sur son dos. Son mari ne revient pas 7 ans ou 10 ans. Et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est les grands-mères qui ont aidé les femmes à faire ça. L'enfant, il a été fait par toi, mais il a dormi quand tu n'étais pas là. Et une fois que tu es parti, quelques années après, il s'est réveillé. Et il y a des femmes qui expliquaient ça. Ça veut dire que l'enfant a dormi 10 ans, a dormi 8 ans, 12 ans dans son ventre. Et jusqu'à présent, par exemple, lorsqu'on parle avec nos mamans ou nos grands-parents, c'est pas vrai, ben non, elles disent oui, c'est vrai, il faut y croire. Mais c'était une façon de résister, c'était une façon de se protéger, sinon elles étaient massacrées. Le problème, c'est que ce qu'on ressent, c'est que quand on vient pour témoigner de notre malheur, parce qu'on est violenté, parce qu'on n'a pas... On nous écoute et on va tout faire pour nous aider. Mais lorsqu'on se présente et qu'on dit on est égal à vous, on a les mêmes luttes, là, on ne nous accepte pas.
En termes de relativisme culturel, je pense que ce terme est beaucoup employé. On ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on met derrière. On ne met pas forcément tous la même chose derrière. Et puis, je crois qu'il y a deux dangers. C'est d'une part de le nier, de considérer qu'il n'existe pas. Ça veut dire qu'effectivement, on ne reconnaît pas les différences de parcours, les différences d'histoire, les différences d'environnement culturel qui peut exister des personnes. Et là, je vous rejoins tout à fait. L'autre danger, c'est aussi de le revendiquer à l'extrême et de s'enfermer, du coup, pour pouvoir avancer sur des questions de droit. Et donc, il y a à prendre en compte quelque chose qui peut être des repères, enfin, que nous, on appelle plus des repères historiques, culturels, plutôt que le relativisme culturel, parce que relativisme culturel, on en a tous dans ces cas-là. On a chacun une histoire et on peut tous analyser nos parcours au regard de notre histoire. On n'a pas la même histoire et on peut faire des différences.
Mon mari, c'est Frankenstein. Mon mari, c'est Frankenstein. Il a tout d'un croque-mitaine. Et tel qu'il est, moi, je l'aime. Oh, oui, mon mari, c'est Frankenstein. Il est né par un soir d'hiver et de la poudre et du tonnerre dans un château.
Conversation Perchée sur Radio Grenouille.
Et je voudrais vous proposer de nous dire quelles sont les priorités aujourd'hui pour le droit des femmes, selon vous. Quelles sont les choses les plus importantes aujourd'hui à défendre dans notre société, peut-être dans le monde entier, avec une forme de droit d'ingérence qui imposerait à l'ensemble des systèmes politiques et sociaux du monde le respect de ces droits de la femme. Alors peut-être on pourrait imaginer que le premier, ce serait le droit à la mixité, mais peut-être est-ce qu'il y en a d'autres qui vous semblent plus pertinents et plus importants et plus urgents encore. Donc peut-être un tour de table, si vous voulez bien, sur les priorités aujourd'hui.
Le droit de parler. Oui, le droit de parler, c'est très important.
En France, depuis quelques années, je sens que nous reculons dans beaucoup de domaines et que les femmes maintenant ont beaucoup plus de problèmes, surtout certaines catégories de femmes, même celles qui ont envie, donc, parce que nous les poussons à devenir autonomes, maîtresses de leur corps et de leur vie, mais il faudrait pouvoir, souvent elles sont seules avec des enfants, impossible de chercher du travail parce qu'il n'y a pas de crèche, et quand elles trouvent du travail, il n'y a pas de place dans les crèches. Il y a aussi cette surveillance depuis quelques années où on les... Mais alors,
elles subissent des pressions atroces de la part des institutions depuis qu'il y a toutes ces nouvelles lois. Elles sont souvent bénéficiaires de minima sociaux, mais avec les deux ronds qu'elles touchent, on les persécute parce qu'on leur dit allez travailler, mais elles veulent bien travailler, ces femmes. Mais comment vont-elles faire ? Ces filles qui ont le courage de venir en stage, il faut voir ce qu'elles subissent. Elles sont en train, certaines d'entre elles, avec leur RMI, elles payent des femmes pour leur garder des enfants. Vous vous rendez compte ? Et quand on essaye de faire appel aux institutions pour dire faites quelque chose, je ne sais pas moi, mais payez-leur par exemple. Mais tout est difficile. Alors il y a un circuit fermé où on maintient ces gens dans une précarité, où on les culpabilise, on leur dit que vous ne voulez pas vous bouger, vous ne voulez pas. Il faut savoir que les femmes maintenant sont de plus en plus dans des difficultés énormes, et on le voit puisque nous travaillons ici avec cette ghettoisation qui a placé toutes les familles de même catégorie sociale, et comme par hasard c'est la même catégorie aussi ethnique. Ce n'est pas un hasard en fait, et donc les choses se compliquent et s'aggravent ces dernières années, il faut l'avouer.
Alors, difficile de rajouter quelque chose après cette intervention qui est très juste. Parlons bien des femmes et pas de la femme, parce qu'effectivement on a vu que les femmes sont diverses, variées, avec des réalités différentes, et que quand on prend comme exemple une femme qui est arrivée à la direction d'une grande entreprise ou d'une grande responsabilité gouvernementale, elle n'est pas représentative de l'ensemble des femmes. Il y a des femmes, il n'y a plus une condition féminine, et c'est pas une journée de la femme, c'est bien les femmes avec toutes les diversités et surtout l'implication des hommes dans cette défense.
Je pense qu'il faut le féminisme d'aujourd'hui, donc si dans les années 70 c'était donc une lutte des femmes pour arriver à acquérir des droits, je crois qu'aujourd'hui il faut construire de la mixité avec la différence, et dans cette différence il faut impliquer effectivement, comme dit Catherine, les hommes à comprendre qu'on n'est pas là pour leur voler le pain de la bouche, un travail, clairement je pense qu'on est assez complémentaires pour travailler la main dans la main et arriver à ce qu'on puisse leur faire comprendre, parce qu'on leur fait peur. Aujourd'hui, on s'aperçoit depuis 2-3 ans, on essaie de porter un projet dans les violences conjugales où les auteurs de violences seraient pris donc en considération psychologiquement, parce que je pense que travailler ne serait-ce que le temps de l'injonction de soins pour leur faire comprendre à ces hommes qu'ils ont effectivement un problème, que la précarité fait qu'on en arrive à ce stade-là, je pense qu'on ne peut pas les lâcher dans la nature après cette injonction de soins. Donc nous, on voudrait travailler avec ces hommes dans le cadre donc d'un soutien psychologique en amont pour pouvoir apporter à ces hommes donc un soutien. Je pense qu'ils n'ont pas encore compris qu'eux aussi ils ont besoin d'avoir une structure qui puisse être assez à égalité pour que les deux fassent la paire et puissent travailler donc en égalité.
J'allais justement vous poser la question, est-ce que dans toutes vos structures, dans tout ce que vous faites, est-ce que vous impliquez les hommes en fait dans votre travail? Donc là, moi en l'occurrence, moi je travaille donc en tant que réalisateur, j'ai travaillé beaucoup avec les femmes, sur la condition des femmes. Bon, j'y ai beaucoup appris, je suis tout à fait converti sur l'histoire de l'égalité, tout en sachant que cette histoire d'égalité, finalement, égalité ne veut pas dire pareil déjà. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas faire, il faut faire une espèce de distinguo là-dessus. Je pense que, ouais, effectivement, l'histoire de complémentarité, tout ça, c'est super important et tout. Et puis là, en l'occurrence, on est dans une table sur la condition des femmes. À part vous et moi, on est les seuls hommes. Donc, est-ce que déjà les hommes sont impliqués ou intéressés par ce travail sur la condition féminine ? Je pense que ça, c'est obligatoire et nécessaire et qui serait forcément quelque chose d'important. Peut-être que justement, la différence avec les féminismes des années 70, qui était en fait un espèce de passage nécessaire de l'opposition homme-femme, je crois qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, ce serait intéressant d'avoir justement un féminisme qui serait complémentaire avec, je ne sais pas comment on pourrait dire, un homanisme, je ne sais pas comment on pourrait dire, puisque finalement, on ne le dit pas. Où il y aurait vraiment ce travail l'un à côté de l'autre, l'un avec l'autre, déjà. Et il faut des hommes, il faut des femmes, voilà. Enfin, de mon regard, c'est ça.
Et peut-être éviter de diaboliser systématiquement l'homme, quoi. Je pense que c'est ce qui fera avancer les choses, parce que ce qui serait intéressant peut-être dans les années à venir, c'est de trouver ces hommes, et ils sont légions, il faut le dire, de trouver ces hommes qui pensent comme nous, qui nous aident, qui sont là à nos côtés chaque jour et qui se disent, voilà, moi je peux soutenir la cause féministe tout en restant un homme, tout en respectant la femme. Et je dis ça pour une bonne raison, c'est que cette notion d'homme et de femme, c'est la même qu'on retrouve avec le noir et le blanc. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas compris que c'est main dans la main qu'on avancera, quel que soit notre sexe, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre façon de faire l'amour, quelle que soit notre origine, etc., tant qu'on n'aura pas compris cette chose-là, je pense qu'on sera toujours dos à dos. Le féminisme de demain, c'est une femme et un homme qui avancent ensemble.
Moi, la chose qui me tient absolument à cœur, et c'est pareil pour toute l'équipe de Femmes d'ici et d'ailleurs, c'est surtout que ces femmes, qu'elles retrouvent le statut qui leur manque jusqu'à maintenant, le statut au sein de leur famille, le respect au sein de leur famille. Ça, tout tourne autour de ça. Dans toutes les problématiques qu'on rencontre, il y a un manque de respect à la maison. Pourquoi ? Parce que cette femme ne travaille pas. Elle est la bonne à tout faire à la maison. Elle obéit au doigt et à l'œil, et au mari, et aux enfants. Et d'autre part, vous parliez de mixité tout à l'heure. Cette mixité, si tout le monde s'y met, et qu'on met une égalité sur cette mixité culturelle déjà. Déjà, la mixité, elle doit commencer là-dessus, sur le côté social, sur le culturel, avant de parler déjà de mixité sur le lieu du travail ou la mixité homme-femme, etc. Déjà, la mixité culturelle, ici, moi je parle de Marseille, ça sera déjà un bon départ. Et que ces femmes-là, qu'on puisse un petit peu les respecter en tant qu'être humain à part entière.
Deux, trois petites choses que je voulais simplement dire. On en parle souvent et peut-être qu'on ne l'a pas dit, c'est que très souvent, à nous aussi, mères de famille, de faire changer nos mentalités vis-à-vis de nos garçons. Moi, je suis une mère de trois garçons et je peux vous assurer que si on réfléchit à notre manière d'éduquer nos garçons de temps en temps, qu'est-ce qu'on recherche aussi, cette virilité masculine ou pas ? Et que moi, je suis, et avec le groupe, le collectif Femmes en Marche, en tout cas de la ville d'Aubagne, nous sommes persuadés qu'il n'y a pas de féminisme sans les hommes.
Enfin, je crois que ce qui est important, c'est l'éducation avant tout. L'éducation pour pour tout le monde, ces jeunes filles, ces dames, ces femmes aussi, par rapport à le comportement que ces mères peuvent avoir vis-à-vis de leur propre enfant. Il faut qu'on soit fiers de ce que l'on est, de ce que nous sommes. Il faut accepter aussi que la fille qui veut, par exemple, poursuivre des études, qu'on la respecte dans cela et qu'on la soutienne, et qu'on ne dise pas non, arrête tes études et va tout de suite être femme de ménage pour trouver du boulot, pour ramener de l'argent. Je pense qu'il y a ça aussi qui est une grande problématique aujourd'hui au sein de nos propres familles. Je pense qu'il y a la visibilité, la transmission. Il faut qu'on transmette aux jeunes pour leur montrer que c'est possible. Et plus il y aura des femmes comme ça, plus il y aura des discussions, plus on montrera aux femmes que c'est possible, et plus je pense qu'elles pourront aussi se prendre en main et y croire.
Oui, ce que j'aurais envie de dire, c'est que, en effet, c'est pas. Enfin, je pense que la question n'est pas le problème de l'homme et de la femme. C'est de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que finalement, les femmes dans le monde sont traversées et cristallisent des problèmes de société. Pour parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire mon pays en France, il est clair que l'idéologie dominante qu'on connaît, tout ce que ça véhicule, le capitalisme d'idéologie derrière, hein, sur ses valeurs justement masculines aussi, la paupérisation, la précarisation, se rencontre à un endroit que la femme représente. Et pour moi, le problème, il est vraiment principalement là, et que c'est vrai que la question du clivage homme-femme, en tout cas à mon endroit, je ne le vis pas, je ne le constate pas comme étant la source du problème, mais que vraiment c'est en quoi le statut de la femme, la place de la femme est le révélateur, mais très très puissant, de problèmes de société d'aujourd'hui.
Well, I think everyone has said almost what I was going to say, that it's a question of education.
Nelly dit que la plupart des gens redisent que ce qu'elle avait aussi envie de dire, qu'elle pense que principalement c'est une question d'éducation.
And also, yeah, between generations also, because it's the older generation also that oppresses women. You know, we women, we oppress ourselves. So.
C'est ce que j'allais dire,
justement, mais elle vient de le dire, Nelly. On représente souvent nous-mêmes un obstacle pour nous-mêmes. Donc ça aussi, c'est très important à prendre en considération et à faire très, très attention à ce genre de choses. Oui.
Je demande que... j'ai pas été victime d'agression ou de... Non. Mais je sais que lorsque j'étais enfant, mon père battait. Comme il était musulman, il battait beaucoup ma mère. Bon. Après, ma grande soeur aussi, son copain la battait beaucoup. Moi, quand j'ai commencé mes tournées en Jordanie, j'ai été victime de viol. Donc, du coup, tout ça, quand je vois ça, et j'ai mal, quoi. Donc, je demande qu'on respecte la femme. Voilà. Parce que l'homme, souvent, quand il est là, c'est... Quelle que soit l'intelligence de la femme, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit tout ce qu'elle a, l'homme, il veut jamais se... Bon, moi, je ne demande pas qu'il se rabaisse, mais il faut qu'il... Il arrête de dominer, parce qu'on est, pareil. Voilà. Merci. Merci.
Écoutez une conversation perchée, enregistrée au Merlan le 10 mars autour des droits des femmes dans le monde et de leur solidarité. Vous y avez entendu Nadira Msagri du Centre Social Agora, Asiba Rejdal de l'association Sheba, Catherine Bodhi du CIDF, Lucie Rodriguez et Régine Ferrin du CODIF, Françoise Semiramode, Stéphane Saounele, Fatima Razi de l'association Femmes d'ici et d'ailleurs, Oumi Kamara de l'association FEMAFI, Nathalie Marteau et Anaïs Leménian représentaient le Merlan, scène nationale à Marseille, Teresa Tigrato, le collectif Femmes en Marche, et enfin Nelly Siwe Chaba, Kathleen Noël et Nadia Begré, artistes, danseuses et chorégraphes. Prochaine conversation perchée à l'occasion de la thématique Tous ensemble. On y parlera bien sûr de sexe. Le détail de cette thématique antenne est sur le site de Grenouille, www.grenouille888.org.